Radio & Co.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence. Différence.
Radio & Co.
Podcast qui fait la différence. Christian au micro, accompagné par Zora. Bonjour Zora.
Bonjour Christian, bonjour à tous.
Par Raouf.
Voilà.
Bonjour Raouf. Par Yann.
Bonjour à tous.
Et par Isabelle qui interviendra peut-être aujourd'hui. Bonjour Isabelle. Mais merci à toi et à la technique, nous avons Sébastien comme d'habitude. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir notre athlète paralympique qui a participé aux Jeux paralympiques de Paris. Il s'agit de Ambroise Daudin. Bonjour Ambroise.
Bonjour.
J'espère que j'ai bien prononcé ton nom.
Ouais, c'est ça, exactement.
Donc, tu es, d'après ce que j'ai vu, ailier droit de l'équipe de France de goalball.
Ouais, c'est ça, ailier droit. Après, j'ai d'autres postes, mais on en parlera peut-être.
Voilà, on en reparlera tout à l'heure. Mais tout d'abord, avant qu'on rentre dans le vif du sujet avec mes collègues, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Eh ben donc, je m'appelle Ambroise Daudin, j'ai 43 ans. J'ai commencé le goalball. Donc, je suis déficient visuel. Je suis malvoyant, pour être précis. J'ai commencé le goalball il y a environ 7 à 8 ans. Et ça m'a aidé à sortir d'une phase difficile. J'en reparlerai peut-être un peu plus en détail. Et donc le goalball m'a amené à l'équipe de France, puis aux Jeux paralympiques de Paris 2024 cet été.
Et donc tu es dans l'équipe de France, est-ce que tu es dans un club aussi peut-être à Toulouse ou ailleurs?
Exactement, ouais, c'est ça, je joue à Toulouse. Alors j'ai commencé à Toulouse, puis j'ai joué pour Nîmes, il y a eu une entente Nîmes-Toulouse, enfin, j'ai un parcours un peu compliqué. J'ai joué 2 ans pour Lyon aussi, puis je suis revenu à Toulouse il y a 2 ans.
D'accord, au club du CSAVH, donc comme Coralie, qu'on nous avons reçu dans un autre épisode.
C'est ça.
Très bien, mais je vais donner la parole à Zora.
Donc voilà, donc justement tu as parlé de ton sport. Oui, mais est-ce que tu peux plus développer ?
Oui, alors le goalball, c'est un sport donc paralympique qui est issu d'un exercice de rééducation pour les soldats estropiés de la Seconde Guerre mondiale. Et petit à petit, c'est devenu un sport. Ça fait quand même 75 ans que ça existe. On y joue partout dans le monde. En France, on a un petit peu de retard, malheureusement. L'équipe de France a été créée pour les Jeux paralympiques, donc il y a 6 ans environ. Alors que bah, y a d'autres pays, où, par exemple comme au Brésil, les premiers mondiaux, ils sont professionnels là-bas, ils y jouent depuis 40 ans. Donc c'est un sport qui s'est bien développé dans le monde. Et les règles sont... c'est un sport qui n'a pas d'équivalence chez les valides. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué de le comparer à d'autres sports, voire impossible. Ça se joue sur un terrain de volley, 9 mètres sur 18. Et de chaque côté du terrain, il y a deux grandes cages qui font toute la largeur du terrain, donc 9 mètres, sur 1 mètre 30 de haut. Devant ces deux cages, il y a 3 joueurs de chaque équipe qui plongent de façon synchronisée pour arrêter un ballon qui fait 1,250 kg, type ballon de basket un peu, donc assez rugueux, assez rigide. Et il n'est pas gonflé, il est creux, et dedans, il y a des gros lots. Et des gros lots, c'est autre chose. Et il est toujours bleu, ça c'est la caractéristique du sport. Et on se le lance un petit peu façon bowling pour être schématique, pour essayer de se marquer des buts. Et il y a plein de techniques de tir, etc. Mais grosso modo, c'est ça.
Et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sport ?
Le hasard. Alors ça a été une période compliquée de ma vie un petit peu avant le goalball, parce que bah, comme beaucoup de gens qui perdent la vue au fur et à mesure, je me suis, comment dire, dès que je pouvais plus faire quelque chose, j'arrêtais de le faire, tout simplement. Très mauvaise technique, je voulais des conseils, puisqu'au final, je me suis retrouvé un peu tout seul chez moi, à m'ennuyer, à prendre du poids. Et donc, bah, pour sortir de cet état, parce qu'au bout d'un moment, je me suis quand même dit, je vais pas rester comme ça toute ma vie. Donc, je me suis dit, bah, le sport, déjà pour perdre du poids, parce que ça avait une importance pour moi. Et puis, au début, je faisais du sport tout seul chez moi. J'y arrivais, mais c'était pas très motivant. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose d'un peu plus ludique, quoi. Donc, comme je commençais déjà à être un petit peu malvoyant, je me voyais mal faire du sport avec les valides. Puis, j'étais un peu renfermé sur moi-même, quoi. Donc, j'ai cherché les sports qu'on pouvait faire en étant malvoyant à Toulouse. Je tombais par hasard sur le goalball et le torball. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi le goalball. Et j'y suis allé. Puis là, premier entraînement, je ne m'attendais pas à ça parce que j'avais regardé des vidéos sur YouTube. Je me suis dit, bon, ouais, pourquoi pas. Et en fait, en y jouant, ça n'a rien à voir. C'était une surprise. Moi, je dis ça à chaque fois. Le goalball m'a surpris. Et je sais pas, je m'attendais pas à ça et ça m'a surpris. Je crois que quand on me surprend, on arrive à m'avoir, quoi.
Si je comprends bien, quand tu as commencé le goalball, c'est une période où tu commençais à perdre la vue. Donc les particularités du goalball, je crois bien, c'est que tout le monde joue avec des lunettes noires pour être à égalité, c'est bien cela.
Oui.
Est-ce que ça n'a pas été difficile pour toi de choisir un sport justement où tu pourrais pas utiliser ton reste visuel?
Alors, en fait, moi, j'avais déjà commencé à perdre la vue, j'avais déjà arrêté de travailler, parce qu'avant, j'étais en région parisienne, je faisais éducateur dans le social, et j'ai dû arrêter ma profession en particulier, parce que je ne voyais plus assez bien pour assurer la sécurité des gens avec qui je travaillais. Donc, j'avais déjà commencé à perdre la vue, mais c'est vrai que j'avais un reste visuel assez conséquent. Et non, ça n'a pas été. Enfin, au début, c'est forcément un peu perturbant, mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été. J'ai pas des souvenirs où je me suis dit oh là là, qu'est-ce que c'est dur d'avoir un masque, etc. Même si, du coup, il y a quand même des contraintes sur le terrain. C'est vrai que les points de repère, c'est compliqué à acquérir. Mais avec le temps, moi, au début, ça ne sait pas ce qui m'a effrayé, quoi.
Justement, je rebondis, comme tu dis que tu es devenu handicapé visuel, comment tu l'as vécu?
Alors, ça c'est intéressant parce que mon grand-père maternel était déficient visuel, voire aveugle carrément. Hein. J'ai toujours reconnu comme ça quand j'étais petit. Et j'ai été diagnostiqué à 18 ans, donc de la même maladie. Mais à cette époque, je voyais quand même plutôt bien. Donc je sortais la nuit, j'avais pas besoin de canne. J'étais un peu gêné la nuit, mais sans plus. Donc bon, moi, j'étais pas, quand on m'a annoncé ça, je me dis bon, ok, voilà. Je crois que peut-être je réalisais pas, je ne sais pas. Et le fait d'avoir cette maladie, ça ne m'a jamais gêné. Je me suis toujours fait, voilà, c'est la loterie de la vie, qu'est-ce que j'y peux, c'est comme ça, on accepte ou on se morfond, quoi, finalement. Mais ce qui m'a le plus dérangé dans la maladie, c'est le regard des autres. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal
C'est classique. Hein.
Ouais, tout à fait. J'ai eu beaucoup de mal à être catégorisé en tant que handicapé. Voilà, je me souviens qu'à cette époque, je disais « je ne veux pas passer du côté obscur ». Et en fait, finalement, quand on y est, on se dit « mais c'est la société qui a une mauvaise image de nous ». Mais quand on y est, on est très bien. Si on s'accepte comme on est, si on vit notre vie pleinement et qu'on fait des choses qui nous épanouissent, ça ne change pas grand-chose. Alors, il y a des difficultés, hein, bien sûr. Tout n'est pas rose, mais... Je m'en faisais une idée plus noire que ce n'est vraiment.
Et comment tu t'es... Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait de la thérapie? Est-ce que tu as fait des choses pour te sortir un petit peu, de changer, de le vivre autrement, ton handicap, justement?
Ouais, tout à fait.
Un peu plus positif.
Oui, tout à fait. Alors, déjà, le sport m'a beaucoup aidé. Le sport m'a apporté énormément. Le goalball en particulier. Parce que déjà, j'ai rencontré des gens. Moi, avant de faire du goalball, je ne connaissais absolument aucun déficient visuel. J'étais le seul déficient visuel de ma famille. Et autour de moi, tous mes copains étaient valides. À Paris, j'avais plein de copains, ma copine, tout ça. Tout le monde était valide. Et donc, j'étais assez mal compris. Je pense que les gens, c'est normal, hein, ils ne connaissent pas le handicap. Et moi non plus, je ne savais pas trop ce qui m'arrivait. Je ne savais pas trop comment le gérer. Donc, c'était assez compliqué pour moi. Et puis, j'ai un peu tout laissé tomber, je suis parti vivre dans le sud, et ça ça m'a fait du bien, de prendre un petit peu de la distance avec un milieu qui me comprenait pas et que je ne comprenais plus. Et ensuite, le sport m'a beaucoup aidé. Rencontrer des gens qui avaient les mêmes problèmes que moi, ça m'a aussi libéré. Je me suis dit, ah, en fait, c'est pas moi. En fait, c'est normal. Ce que je vis, c'est normal. Il y a d'autres gens qui vivent la même chose, et ça m'a fait un bien fou. Le sport, donc le fait de me mettre au sport, la discipline, l'effort, tout ça, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et effectivement, moi, j'ai dû aller voir une psychologue. J'ai fait ça pendant un certain nombre d'années et ça m'a énormément aidé. J'ai arrêté il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, donc, C'était vraiment un travail de longue haleine, mais ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ouais,
tu étais déjà sportif avant de perdre la vue ou...
Non, pas tellement sportif du dimanche, le foot avec les copains, quoi, mais d'accord. C'est tout.
Et t'as fait autre chose que du sport ?
En loisir ?
Oui.
J'avais un groupe de rock quand j'étais adolescent, comme beaucoup de gens. Mais non, je pense que c'est ça aussi qui m'a manqué dans ma vie, c'est de ne pas avoir de passion. Et aujourd'hui, j'ai une petite fille d'ailleurs, j'essaye de lui inculquer ça, de lui faire découvrir des choses qui pourraient l'intéresser.
Tu faisais du théâtre en amateur.
Oui.
Peux-tu nous dire ce que cette discipline t'apportait ?
Oui, alors effectivement, je faisais du théâtre en amateur. Alors j'en ai fait plusieurs fois dans ma vie. Et à chaque fois, ça m'a quand même aidé. Alors je sais pas pourquoi je suis jamais resté dans une troupe très longtemps, mais à chaque fois, ça m'a quand même apporté par rapport au regard des autres, au fait d'accepter ma maladie, de faire la différence entre le regard des autres, ce que les autres pensent de moi, et ce que je suis. Voilà, ça m'a beaucoup. Le théâtre là-dessus m'a beaucoup apporté. Ouais, tout à fait.
Est-ce que tu écoutes de la musique avant le match?
Ouais, alors ça dépend. En fait, dans l'équipe, on a une enceinte et on met de la musique avant le match, donc dans les vestiaires, pendant l'échauffement, etc. Donc on a une playlist un petit peu commune et là-dessus, on écoute des choses qui nous motivent. Et puis, je me souviens que pendant les Jeux paralympiques, effectivement, en allant sur le lieu de la compétition, dans le bus, ouais, j'écoutais de la musique pour me concentrer. Et puis pour me motiver, ouais, tout à fait. J'aime beaucoup la musique. Ouais.
Tu en trouves quoi sur ta playlist perso ?
Oui, voilà.
Ça dépend des moments. On y trouve du rock, parce que je suis très rock. Donc ça m'aide beaucoup à me motiver. Après, j'avais pour me concentrer, j'avais des chansons un peu plus douces, peut-être type relaxation, vous voyez, des choses comme ça. Donc c'est assez varié. J'écoute aussi du rap, j'écoute de la variété, j'écoute. Des choses un peu plus électroniques, voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses, c'est assez éclectique.
Tu joues d'un instrument ?
Très mal de la guitare. Et j'ai commencé les cours de percussion hier, tiens, je crois. Mardi, pardon.
Moi aussi j'en fais. c'est juste un, voilà, ça n'a rien à voir avec une interview.
Alors tu commences à nous parler des Jeux paralympiques, comment tu as intégré l'équipe de France et comment ça s'est passé ta sélection ensuite pour participer à cette...
Alors ça a été un long chemin parce que j'ai commencé le goalball et à l'époque ça faisait quelques mois que je commençais et mon entraîneur Roberto Pera était...
Ah, je connais bien Roberto.
C'est vrai, et ben voilà, ben je lui dois beaucoup, surtout à mes débuts. Il était co-entraîneur, enfin assistant coach de l'équipe de France à cette époque-là. Et il m'a dit, bah, écoute, tiens, viens, ce week-end, il y a un entraînement à Toulouse. Viens, je vais voir si tu peux être invité. Et puis, tu verras un petit peu ce que c'est que l'équipe de France, quoi. Et donc, il a réussi à m'intégrer au processus. Mais à l'époque, il était question uniquement que je vienne en tant qu'observateur, que je participe à l'entraînement, mais je n'étais pas sélectionnable, vous voyez. Mais ça m'a quand même mis un petit pied dans le bain. Et puis, ça m'a surtout donné envie, quand j'ai vu ce que c'était de... d'intégrer le truc. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à bosser, à comprendre que voilà, il allait falloir que je cravache pour avoir ma place. Et puis après, ça a peut-être pris un an pour que de temps en temps on me fasse des propositions, mais c'était un peu léger. Puis il y avait des sélections, donc j'ai pas été sélectionné tout de suite. Et puis je pense que c'est au bout de 2 ans, peut-être de 3 ans, je sais plus, où j'ai été sélectionné en équipe de France. Et là, au début, c'était compliqué parce qu'on arrive, il y a tous les grands joueurs de l'équipe de France, de France, les meilleurs joueurs de France, quoi. Et moi, j'ai fait beaucoup de bancs au début. Je vous cache pas que c'était une période un peu où il a fallu être patient, quoi. Et puis, au fur et à mesure, j'ai continué de travailler. C'est là où je suis parti aussi jouer à Lyon parce que il y avait des coéquipiers à moi en équipe de France, donc ça m'a permis d'apprendre à jouer avec eux, de progresser beaucoup aussi. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait mes preuves sur le terrain petit à petit et puis on m'a fait de plus en plus confiance. Et voilà, donc c'était très enrichissant comme parcours en tout cas.
C'est super. Et c'était un rêve pour toi les Paralympiques ou ça s'est fait par hasard aussi?
Alors, à partir du moment où j'ai intégré l'équipe de France, c'est devenu un objectif. Un rêve, je ne peux pas dire ça parce que j'avais pas prévu ça dans ma vie, si vous voulez. Je pense que quand j'avais...
Petit, tu te disais pas, je serais...
Non, pas du tout. Non, non, et même quand j'avais 30 ans, si on m'avait dit, ouais, tu participeras aux Jeux Paralympiques, je pense que j'aurais rigolé parce que j'étais pas du tout sportif, quoi. Donc, c'est devenu une opportunité assez extraordinaire. Et c'est devenu un objectif à partir du moment où j'ai mis le pied en équipe de France. Ouais, tout à fait. Donc là, j'ai commencé vraiment à me dire, je veux y aller, je veux y aller. Et c'était une lutte acharnée parce qu'on voulait tous y aller. Donc on a tous cravaché, on a tous donné de ce qu'on avait. Et c'est un équilibre un peu particulier parce qu'à la fois, il faut qu'on soit coéquipier. On joue quand même sur le même terrain, dans la même équipe. Mais en même temps, il y a une espèce de compétition, forcément, parce que... parce qu'on a tous envie d'être dans cette équipe et qu'il y a un nombre limité qui vont y être. Quoi. Donc c'était une compétition saine, mais acharnée quand même.
Il y a une question là qui me vient là. Est-ce que maintenant, enfin, comme tu as joué aux Paralympiques, aux Jeux Paralympiques, est-ce que là tu sens une communion entre des valides et des personnes comme nous, quoi. Voilà, parce que là, t'as rencontré, je pense, comme Coralie, les joueurs, voilà, c'est bien médiatisé. Et qu'en as-tu ressenti
Tu veux dire entre sportifs, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça, exactement.
J'en ai pas beaucoup rencontré de sportifs valides. Entre sportifs, pas, honnêtement, moi, j'ai pas senti ça spécialement, même s'il n'y a pas de distance particulière non plus, quoi. Mais en tout cas, on a été traités comme des véritables sportifs. Et ce qui a changé par rapport aux autres Paralympiques, aux Paralympiques passés, même s'il y avait déjà eu quand même une progression sur ceux d'avant, c'est l'intérêt du public et la médiatisation. Ça, là-dessus, on sentait qu'il y avait un véritable effort de fait.
Il faut savoir quand.
Ouais, tout à fait. Il faut savoir qu'en France, on joue les championnats de France et la Coupe de France, hein, les compétitions nationales, on les joue avec très peu de public, parce que c'est un sport qui est confidentiel, hein, le goalball en France. Il y a très peu de gens qui connaissent son existence. Et puis, on doit jouer devant une vingtaine de, grand maximum, une vingtaine de personnes nos matchs. Et c'est souvent des gens qui connaissent le milieu, on se connaît tous les uns les autres, donc... Ouais, c'est assez confidentiel. Mais là, les Paralympiques, c'était quand même particulier. On jouait à l'Arena Sud, devant 4200 personnes. C'était plein à chaque match. Et c'était incroyable parce qu'il y avait une ambiance et une complicité avec le public, entre l'équipe de France et le public, qui était incroyable. Vraiment, ça, c'était l'un des meilleurs souvenirs de ces Paralympiques pour moi. Et je pense pour beaucoup. Hein.
C'était fabuleux qu'on pratique un sport aussi confidentiel, de jouer devant un vrai public quelque part.
Oui, tout à fait. Ouais. Non, là, c'était, il y avait un contraste réel, quoi. Et c'était incroyable parce que l'arbitrage au goalball impose le silence au public pour qu'on puisse entendre la balle, se concentrer, etc. Parce que c'est un sport qui est très prenant mentalement. Et ce qui était étonnant, c'est que même si le public était silencieux, on entendait quand même des murmures, des réactions un petit peu presque silencieuses, mais pas tout à fait. Et ça donnait une ambiance particulière. Et au moment où on marquait un but, l'équipe de France marquait un but, là, il y avait une explosion de joie parce qu'on sentait que le public s'était retenu tout le long pour pas faire de bruit. Et quand il y avait un but marqué, c'était une explosion de joie et de... Il y a eu vraiment une véritable scène de liesse, donc c'était incroyable, quoi. C'était un souvenir très prenant.
Et justement, je me disais, est-ce que ça a changé, entre guillemets, quelque chose dans ta vie? Bon, j'imagine qu'on ne t'arrête pas dans la rue toutes les 5 minutes.
Ah non.
Quand tu croises des gens, maintenant qu'on a vu du goalball à la télé, on a beaucoup parlé des Paralympiques, est-ce que les gens réagissent différemment quand tu leur en parles, en fait?
Oui, oui, alors ils sont souvent très, très contents, et très impressionnés, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont une réaction qui est un petit peu, ouais, la surprise, « Ah, c'est vrai, t'as fait ça, c'est génial », etc. Après, il y a une anecdote un peu rigolote qui m'est arrivée, c'était au retour des Jeux Paralympiques, donc ça devait être début mi-septembre, je pense, il y a eu une cérémonie en l'honneur des joueurs olympiques et paralympiques au Capitole, donc place du Capitole. Donc c'était une grosse cérémonie, il y avait énormément de monde, la place était blindée, il y avait tous les grands sportifs valides.
Il y avait
Marchand,
je crois, et tout ça.
Ouais, exactement, il y avait les grands sportifs valides et handicapés. Et donc on est monté sur scène, on était au balcon du Capitole, etc. Vraiment, c'était un gros truc, quoi. Et c'était formidable. Et puis, je devais partir un petit peu plus tôt, mais je suis resté jusqu'au bout, mais j'ai dû partir quand même un petit peu. Je n'ai pas pu rester pour la réception de fin. Et j'avais mis ma tenue équipe de France, de réception, etc., comme tout le monde. Et je pars pour reprendre le métro. Et en fait, certaines personnes, il n'y en a pas eu beaucoup, mais quelques-uns, ils m'arrêtaient, ils disaient « Ah, bravo, félicitations !» Ils venaient me serrer la main, ils ne savaient pas qui j'étais. Je le sais, parce que c'est très... voilà, je ne suis pas connu, puis le goalball, ce n'est pas connu. Je suis sûr qu'ils ne savaient pas non plus quel sport que je faisais, mais...
L'uniforme.
Voilà, exactement, c'est voilà. Ça. Ce qui était drôle, c'était en fait, j'avais l'impression d'être un produit avec un emballage, et on venait me serrer la main parce que j'avais l'emballage, quoi. Donc c'était assez perturbant, mais... voilà, donc il y a des scènes comme ça un petit peu bizarres, mais sinon, non, la célébrité, non, pas vraiment.
D'accord. Et quand tu étais à Paris, tu nous disais que tu n'as pas eu trop de contact avec des sportifs olympiques. Par contre, est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec d'autres sportifs, d'autres équipes de goalball, est-ce que tu as eu des rencontres intéressantes, marquantes?
Oui, bah alors les sportifs olympiques, eux, ils étaient en train de se reposer, je pense qu'ils
ils
avaient.
Ils sont pas partis, malheureusement.
Voilà, c'est ça, ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, avec beaucoup de joueurs étrangers, là on a eu de grands échanges parce que dans le village olympique on rencontre énormément de monde, ça c'est très enrichissant. Et puis il y a une espèce de monnaie d'échange au village olympique, c'est les pins qu'on s'échange, il y a une espèce de collection, de collectionnite comme ça, tout le monde, il y a un vrai marché, une économie locale presque. Et donc ça, c'est un bon prétexte pour parler avec tout un tas de joueurs, d'athlètes handicapés venus de partout et faisant tout un tas de sports différents. Donc ça, c'est très, très enrichissant.
Ah, c'est chouette. C'est quoi les objets? C'est des pins?
Ouais, en général, les fédérations vous donnent un lot de pins.
Tu fais encore les pins, ouais. D'accord.
Ouais, absolument. Il paraît que ça revient à la mode, moi, je sais pas. Mais en tout cas, aux Jeux Paralympiques, au village olympique, c'était une vraie monnaie d'échange.
Ça, ça marchait bien quand j'étais au lycée, mais je crois que c'était fini.
Ouais, mais non, ça revient. Tout revient. L'histoire est cyclique.
Est-ce que tu as une médaille? Des médailles?
Des médailles aux Jeux Paralympiques? Non. Non, mais on est parti.
Mais pourquoi?
Alors, c'est très simple, on savait qu'on n'était pas médaillable. Il faut savoir que le goalball, c'est un sport qui a 75 ans, comme je le disais tout à l'heure. Mais en France, on a recréé l'équipe de France il y a peut-être 6 ou 7 ans pour les Jeux Paralympiques. Et en 6 ou 7 ans, avec très peu de budget, il a fallu qu'on se mette au niveau d'équipes professionnelles.
Qui avaient des pros dans des pays, voilà.
Qui ont 40 ans d'expérience. Hein, je parlais des Brésiliens tout à l'heure en off. Eux, ils sont professionnels, ils s'entraînent tous les jours. Ça fait 40 ans qu'ils jouent. C'est difficile de lutter quand on a si peu d'expérience. Malgré tout, on a fait une performance tout à fait honorable puisqu'on a. Je le disais aussi en off. Il y a une règle au goalball, c'est que le temps réglementaire est de 2 fois 12 minutes avec 3 minutes de mi-temps au milieu. Mais si au bout de 5 minutes de jeu, il y a 10 buts d'écart, par exemple 10-0 ou 11-1, le match s'arrête. C'est une règle qui peut paraître un peu cruelle, mais
dur,
qui est un... Oui, c'est dur, mais en même temps, c'est
soit ça... Ça me fait
penser
à des jeux vidéo de foot où je m'en faisais quand il était petit, comme quand il y avait trop de buts, ça se bloquait.
Et ben voilà, alors là, c'est un petit peu ça. Mais en fait, cette règle a un vrai fondement, c'est que quand il y a un trop gros écart de niveau, si on laisse tout le temps s'écouler, ça peut finir en fin de match avec des 50-2 ou voilà, ça n'a aucun intérêt si vous voulez. Donc voilà, ça arrive quand même régulièrement.
Et ça
même
vous est arrivé malheureusement.
Ouais, malheureusement, ça nous est arrivé contre la Chine, mais on n'est pas les seuls à qui ils ont mis 10-0 parce que les Chinois étaient très très chauds. Et voilà, mais à l'inverse. Et puis ça arrive. Nous, on en a déjà mis aussi à la Lituanie.
Ah ouais.
Chez eux, alors que la Lituanie, ils sont vraiment beaucoup plus forts que nous. Donc ça peut arriver. Comme je le disais tout à l'heure, le goalball, c'est un sport qui est très mental, très psychologique. Et si on arrive à tenir une défense, qu'il n'y a aucun but qui rentre, généralement en face, l'adversaire s'énerve, il panique, il va forcer les tirs, il va faire des fautes, ça va nous profiter et ça peut finir en 10. On avait gagné 16-6, je crois, contre la Lituanie, à domicile en plus, donc vraiment, c'était pas évident. Et donc voilà, ça peut arriver n'importe quand, il n'y a pas de contexte particulier.
Et comment ça se passe? Parce que évidemment, on va constituer une sélection pour les Paralympiques. Comment tu as été sélectionné?
Eh bien, alors, déjà, on a été sélectionné un peu à la dernière. Ils ont vraiment managé le suspense jusqu'au bout, parce qu'on a été sélectionné, je crois que c'était début juillet. de 2024. Donc vraiment, on a su ça au dernier moment. Et il a fallu qu'on montre qu'on s'était préparé, qu'on était prêt mentalement. Donc ça s'est beaucoup joué sur les compétitions de référence. Je crois que c'était en juin ou avril, je ne sais plus. Il y avait le championnat d'Europe en poule B. Donc on a participé, on est arrivé quatrième. Donc là, on a fait une très très belle performance. Et c'est sur ce genre de compétition que le staff nous évalue. C'est aussi sur certains entraînements, sur des compétitions nationales, etc. Et donc là, c'est du travail. C'est sur bien des plans. Il y a la nutrition, il y a le mental, il y a la technique, il y a le physique. Enfin, vraiment, il y a énormément d'aspects à travailler. C'est là-dessus qu'on est jugé.
Et est-ce qu'il y a une équipe de réserve au cas où c'est comme les autres?
Oui. Ouais, tout à fait. Il y a une équipe de réserve. Là, il y avait 6 joueurs de réserve et 6 joueurs de.
Ah d'accord, 12 vous êtes
sélectionnés. Voilà, grosso modo, ouais, c'est ça.
Okay. Au niveau de l'alimentation, comment vous avez géré toute l'alimentation au niveau des entraînements, des...
Ouais. Oui, alors ça, l'alimentation, la nutrition, c'est un aspect effectivement très très important. Et c'est peut-être là où j'ai eu le plus de mal, parce que malheureusement, je suis extrêmement gourmand. Ouais. Là, il n'y a pas de secret, il faut de la rigueur, il faut de la discipline. Il faut arriver à gérer sa nutrition au mieux, non seulement en qualité mais en quantité. Il faut arriver à manger assez pour être performant aux entraînements, avoir assez d'énergie, parce qu'il y a des phases où on a 3 entraînements par jour pendant 2 semaines, donc là c'est très compliqué, donc il faut manger assez quand même, mais il ne faut pas manger trop. Voilà. Et bien sûr, effectivement, il faut manger les bonnes choses en bonne quantité. Voilà. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus. Après, bon, nous, on n'est pas professionnels, donc on n'avait pas de nutritionniste, par exemple. Donc il fallait vraiment qu'on fasse avec les moyens du bord, même si on avait un préparateur mental qui nous conseillait en nutrition. Mais il n'était pas nutritionniste, donc on pouvait pas être on n'avait pas de suivi bien précis. Malgré tout, on nous pesait quand même. Régulièrement et donc on avait quand même des balances, vous savez, un pédancemètre ça s'appelle, donc c'était des balances qui mesurent votre poids, votre graisse, votre taux de graisse, votre masse musculaire, etc. Bon, c'est pas des choses très précises, hein, surtout les petites balances qu'on a. Pour avoir quelque chose de très précis, il faut vraiment aller dans des centres spécialisés avec des grosses balances qui sont très très chères. Mais on avait quand même une idée de notre évolution, et donc là ça c'était plutôt surveillé. Maintenant c'était plutôt à un niveau amateur à ce niveau là quoi. Mais
merci Stéphane pour ta question. Alors justement, je pensais à quelque chose, parce que Coralie, qui était de l'équipe de France féminine de goalball, que tu connais j'imagine,
ouais, bien sûr,
qui était à ce micro il y a quelques semaines, nous a dit qu'une fois que les épreuves étaient passées, c'était pas mal lâché par contre sur la cantine de village olympique. Est-ce que ça t'a impressionné à toi aussi? Ou
moi je vous disais, je suis gourmand, donc fallait pas me laisser là-dedans quoi. C'était compliqué.
Il l'a dénoncé.
Ouais. Mais c'était une espèce de grand d'énorme barnum où il y avait je ne sais pas, 5-6 peut-être plus des restaurants différents. Il y avait des bars à salade, des bars à sushi, c'était et c'était ouvert 24h/24. Donc bon, ça c'était incroyable. Et avant on faisait gaffe quand même, quand il y avait des matchs, on faisait attention, puis après on devait attendre le jour de la cérémonie de fermeture, de clôture, pour être là, etc. Donc il y a eu 2-3 jours quand même où on était libre, on avait fini tous nos matchs et où on a pu se faire plaisir. Effectivement, là on s'est un petit peu vengé sur tous les repas qu'on a eu avant. Ouais, comment?
Vous avez tout pris
Non. Moi, j'ai goûté un peu à tout, mais il y avait des cookies. Alors, je sais que les muffins ont eu, pendant les Jeux Olympiques, les muffins avaient eu un succès particulier parce qu'il y avait un sportif, je ne sais plus lequel, qui avait fait des vidéos sur ses réseaux sociaux avec plein de muffins, puisqu'il apparemment il les avait appréciés. Moi, c'était plutôt les cookies. Les cookies étaient très très bons. Ah. Et puis voilà, après, il y a beaucoup de choses bonnes. Hein. C'était compliqué de choisir.
C'est ça ta médaille.
Voilà, c'est ça. Un cookie, c'est ma médaille.
Et au-delà de la nourriture, alors ça, ça marche plutôt, toujours. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué sinon au village olympique ?
Eh ben, c'était le traitement auquel on avait le droit, quoi, qui était royal. On était, on avait deux appartements pour toute l'équipe. Et puis on était dans un immeuble qui, je crois, va être réhabilité en HLM. Et il y avait dans tout le village olympique, il y avait des espèces de petits taxis électriques. Et donc il suffisait de descendre en bas de l'immeuble, on levait la main et puis il y avait un taxi qui s'arrêtait et il nous emmenait un peu où on voulait.
Ah ouais.
Ouais, non, c'était incroyable.
Et vous emmenez ailleurs d'un Paris, quoi, ou...
Non, c'était à l'intérieur du village olympique.
Mais c'est grand, le village. Il faut des taxis.
Oui. C'est quand même assez grand. Après, bon, tout peut se faire à pied, j'imagine, mais c'était quand même plus agréable de faire ça en taxi, quoi.
Il y avait énormément de bénévoles, apparemment.
Il y avait beaucoup de bénévoles, c'est ce que j'allais dire. Les bénévoles ont fait un travail incroyable. Ils étaient d'une gentillesse. Franchement, j'ai rarement vu ça. C'était ils étaient parfaits. Merci à eux encore parce que sans eux, on aurait eu une expérience bien différente. Et vraiment, non, ils étaient incroyables. Ils étaient incroyables, que ce soit sur le lieu de la compétition, dans le village, entre les deux aussi, parce qu'il y avait des gens qui venaient. Il faut savoir que le village olympique, c'est une zone internationale. Donc quand on arrive, il y a une douane. On met nos sacs sur un tapis roulant, ça passe au rayon X, etc.
Ah ouais. Chaque fois qu'on rentre.
Ouais, à chaque fois qu'on rentre. Et donc pour en sortir, on avait un référent qui nous attendait à la sortie du village, qui nous emmenait dans le bon bus, un bus qui était généralement que pour l'équipe de France. Enfin, pour chaque équipe avait son bus, quoi, qui nous emmenait sur le lieu de la compétition, qui nous emmenait dans nos vestiaires, qui bon, lui, il n'était pas obligé de faire ça, mais il était très gentil, donc il nous emmenait des boissons s'il y avait besoin, il nous emmenait aux toilettes. Enfin, voilà, c'était incroyable. Les gens étaient d'une gentillesse. Ouais. Ça, c'était l'un des plus beaux souvenirs aussi. C'était la relation avec les bénévoles, c'était fou, quoi.
Avant de conclure, peut-être, moi j'avais une dernière question. Est-ce que tu as une activité professionnelle ?
Non, du coup, j'ai pas repris d'activité professionnelle parce que j'ai vécu toute la préparation en tant que joueur sportif de haut niveau, joueur de goalball, comme mon métier. Pour moi, je sais qu'Aurélie, elle l'a pris aussi un petit peu comme ça parce qu'elle avait un cabinet de kinésithérapie qu'elle a vendu, je crois, pour se préparer pour les Jeux Olympiques. Donc on est plusieurs comme ça en France à avoir eu cette approche-là. Et c'était vraiment mon métier, quoi, même si j'étais pas payé pour ça. Hein. Officiellement, on peut pas dire que c'était mon métier. Mais voilà, ça l'a été pendant un bon moment. Et aujourd'hui, je ressens pas le besoin de travailler parce que j'ai plein de choses qui m'épanouissent dans la vie. Je me sens utile parce que je travaille, mais alors plutôt d'un point de vue associatif. Je suis engagé dans mon club et puis je vois que j'aide des gens aussi comme ça à prendre confiance en eux par le sport ou juste en parlant avec eux, etc. Donc pour moi c'est une belle source d'épanouissement.
Et j'ai une petite idée de la réponse, mais est-ce que le sport de haut niveau, quand on est un athlète handicapé dont on a le goalball, est-ce que ça permet de vivre ou est-ce que ça coûte de l'argent?
Et non, ça... alors j'ai quand même gagné un petit peu d'argent.
On ne te demandera pas ton compte en banque.
C'est juste. C'est gentil. Non, j'ai gagné un petit peu d'argent la dernière année, surtout. Mais c'était pas un salaire, quoi. J'ai eu le droit à des bourses, des subventions, des aides financières en tant que sportif de haut niveau. Mais ça m'a pas permis de gagner ma vie. Il y en a une part qui m'a aidé à financer mon plan d'entraînement. Et puis il y en a une autre part que j'ai pu un peu garder, mais c'était plutôt minime, quoi. Donc en vivre, non, c'est quand même un bien gros mot. Ouais. En France, on n'en est pas là encore, malheureusement.
Moi, c'est une question, je sais la réponse aussi. Mais avec tous les...
On la pose pas alors.
Non, mais ça fait rien. De toute façon, en général, je pose des questions qu'il faut pas. Mais bon, c'est pas grave.
Bon, c'est pas grave, vas-y.
Donc, comme t'es épanoui maintenant, comme tu dis, comment te sens-tu du coup maintenant, à part l'épanouissement, qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que t'as des projets? Est-ce que T'as d'autres choses à faire, je sais pas moi.
Oui, oui. Bah, déjà, j'ai l'éducation de ma fille, qui est, je trouve, quelque chose d'important, parce que éduquer les nouvelles générations à tout un tas de problématiques, et moi, pour moi, ça a une importance. Et puis, je vous dis, aujourd'hui, je suis entraîneur de mon club. J'essaye d'insuffler l'envie aux joueurs de mon club de partir à l'international, parce qu'il y a très peu de clubs français qui partent à l'international. Il y a Lyon qui en fait beaucoup depuis quelques années maintenant. Et alors ça commence à venir, on a déjà fait une compétition début septembre au Portugal. Là, le week-end qui arrive, ils sont plusieurs à partir sur un training camp au Portugal avec un club portugais qui nous a invités. Donc on y vient petit à petit, mais voilà, l'un de mes buts, c'est de participer au développement du goalball en France. Il y a aussi un ami qui a été nommé responsable du développement sportif au sein de l'AVH, à l'AVH nationale, et qui m'a intégré dans ses rangs. Donc voilà, le développement du sport déficient visuel en France, c'est quelque chose qui a une certaine importance pour moi et à laquelle j'ai envie de participer.
Tu irais plutôt vers l'encadrement, si je comprends bien. Et donc ta carrière personnelle, tu la vois encore continuer quelques années? Tu te vois à Los Angeles ou ça sera un peu tard peut-être
vu ton âge? En Australie, hein,
c'est un peu tôt. C'est un peu tôt pour le dire, parce que déjà, pour l'instant, l'équipe de France n'a pas encore redémarré. On est en plein changement, renouvellement d'effectifs. Pour l'instant, on ne sait pas trop où ça en est. Je pense qu'ils ont des problèmes, je ne sais pas trop, internes, je ne saurais pas trop les définir, mais... pour l'instant, ça n'a pas trop redémarré, donc on ne sait pas trop. Moi, j'ai eu une blessure aussi. Je suis blessé à la cheville, j'ai été opéré il n'y a pas si longtemps. Je suis encore en pleine convalescence, donc ça tombe très bien, cette césure là, de l'équipe de France. Mais je n'ai pas fermé la porte à l'équipe de France pour l'instant. J'ai envie de continuer. Est-ce que mon corps me le permettra? Ça, c'est une autre question. Après, effectivement, j'ai 43 ans, donc il y a des jeunes qui arrivent derrière. Je pense que je suis encore en mesure de rivaliser. Maintenant, ça ne sera pas à moi de le dire. Il y a aussi ça, tout à l'heure, Sébastien me posait la question, qu'est-ce que je retiens de tout ça? Il y a aussi ça, c'est l'humilité, de se dire que peut-être on a envie de faire des choses, mais peut-être on n'en est plus capable, ou peut-être il y a mieux que nous, et c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Peut bosser autant qu'on veut, s'il y a meilleur que nous, il y a meilleur que nous, et il faut faire avec, il faut l'accepter.
T'es au top là.
Même si on va pas lâcher l'affaire. Hein.
C'est l'Ambroise Mania là.
Voilà. Allez, l'Ambroise Mania, c'est parti.
Non, il y a effectivement les petits jeunes, je les attends de pied ferme. Mais maintenant, s'ils me dépassent, je leur serre la main, je leur dis bravo.
Le Graal.
Non, le mec, il a déterré l'âge de guerre. Là. Ça y est, c'est parti.
Non, pas du tout. C'est la guerre, mais saine.
C'est une bonne guerre.
C'est la première fois que tu viens à Café & Co. Qu'as-tu pensé de ce lieu en fait et de notre interview?
Très agréable. Déjà, je trouve que l'ambiance est très bonne. On rigole, on est très détendu. Il y a une espèce d'ambiance aussi autour, parce qu'on entend des gens parler. Et au début, je me disais, tiens, c'est bizarre, est-ce que ça va pas gêner? Parce que j'ai l'habitude, j'ai déjà fait un peu de radio, enfin très, très brièvement. Et c'était plutôt dans des lieux clos et un peu silencieux. Et en fait, finalement, je trouve que il y a une bonne ambiance dans ce lieu. C'est très chaleureux. Je reviendrai avec plaisir si vous m'invitez.
Et t'as oublié la journaliste qui était à côté de toi.
Les gens qui participent à cette émission. Elle est très gentille. Vous m'avez mis dans de bonnes conditions.
Je vais embrasser en tout cas. Merci d'être venu répondre à nos questions.
Merci.
Et bonne chance pour la suite.
Radio & Co.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence. Différence. Différence.
Radio & Co.